l'heure des chemins de la musique. On retrouve Christian Rosset dans le quatrième volet d'une série consacrée au quatuor à cordes. Aujourd'hui, le premier XXe siècle.
Nous avons pu constater à quel point l'œuvre monumentale de Beethoven, pour quatuor à cordes, a pu monopoliser l'attention des analystes, et ce jusqu'à nos jours, la positionnant même au sommet au nom de la modernité. À tel point qu'à de rares exceptions près, ce qui a suivi la mort de Beethoven a pu apparaître régressif. Mais soudain, à l'orée du XXe siècle, on peut observer une précipitation des choses, cette fois sans maître solitaire, l'effort d'invention étant, sinon collectif, du moins plus équitablement partagé. Le labyrinthe se complexifie. Comme il faut éviter les regrets, autant que l'esprit de hiérarchie, nous ne donnerons pas la liste des compositeurs que nous n'aurons le temps d'évoquer, nous contentant de dire qu'ils sont assez nombreux. Au XXe siècle, le quatuor à cordes se porte bien, alors qu'il se transforme parfois radicalement, parfois presque malgré soi, comme nous allons tenter de le voir en considérant les cinq modernes qui peuvent nous apparaître aujourd'hui parmi les plus décisifs, Stravinsky, Schoenberg, Berg, Webern et Bartok. Les chemins de la musique, le quatuor à cordes ou la conversation en chambre. Quatrième épisode, où nous retrouvons Miguel da Silva, altiste du quatuor Isaïe, et Bernard Fournier, auteur d'une monumentale histoire du quatuor chez Fayard. Arnold Schoenberg, deuxième quatuor, l'émergence d'une voix. Maintenant, nous sommes donc au XXe siècle. Quelque chose de très important va continuer, c'est l'histoire du quatuor à cordes. Mais cette histoire va changer, ou du moins, il va y avoir un tournant de cette histoire. Est-ce qu'on peut dire que ce tournant vient d'une lutte féroce, qui donnera d'ailleurs des résultats presque de fusion, mais de fusion inquiète, entre la question de la forme et donc des acquis, et de l'analyse et de la lecture de ce qui a précédé, et les velléités très importantes de transformation et d'indépendance du timbre notamment.
Alors moi je pense que de même que ce n'est pas véritablement une révolution qui apparaît avec Beethoven après Haydn et Mozart, mais une synthèse et un élargissement, de même je pense que ce qui se passe au début du siècle avec l'école de Vienne et avec Bartok, c'est pas une révolution, c'est une évolution naturelle. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une évolution du langage avec le problème posé par la tonalité, problème que tous les compositeurs ont assumé depuis Wagner. On trouve ce problème-là déjà dans le quatuor d'Hugo Wolf, on le trouve dans les quatuors de Reger, on les trouve dans le premier quatuor de Smetana. Donc petit à petit, la tonalité se défait. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est intéressant, c'est que c'est justement dans un quatuor que, pour la première fois, un compositeur va suspendre la tonalité, et cela dans le quatuor opus 10 de Schoenberg, donc qui était en même temps un quatuor avec voix, chose qui n'est pas d'ailleurs insignifiante. Donc moi je parlerai du point de vue du langage, d'une évolution naturelle. Si on pense au chromatisme du quatuor Köchel 428 de Mozart, si on pense à l'atonalisme latent de la troisième fugue de la grande fugue de Beethoven, on se dit que ce mouvement ne pouvait conduire que là. Donc dire que l'atonalité c'est une révolution, à mon avis c'est une mauvaise interprétation. C'est pas une révolution, c'est une évolution naturelle, et par rapport à cette situation, Schoenberg et d'autres vont proposer des solutions. Schoenberg va proposer la solution du sérialisme. Alois Abba va proposer la solution de la microtonalité dans ses 16 quatuors, et ce sont des solutions à un problème posé, qui est un problème d'évolution naturelle d'un genre, d'évolution naturelle du langage. Cette évolution ne concerne pas que le quatuor, simplement, une fois encore, le quatuor est un théâtre essentiel de l'évolution de l'histoire de la musique. On peut lire l'histoire de la musique à travers l'évolution du quatuor, et les années 1910 en sont l'illustration parfaite, puisque des choses vraiment importantes se passent là. Thank you.
Alors il y a un quatuor qui est quand même important, c'est plutôt des morceaux pour quatuor de Stravinsky qui sont presque une négation de la tradition du quatuor.
Absolument, disons que c'est le déni du quatuor. C'est le déni du quatuor à deux points de vue. C'est à la fois du point de vue de la forme, puisque c'est la première œuvre qui véritablement met en l'air toute référence à la forme sonate, avec des mouvements qui sont d'une part des petites pièces, des petites formes, d'autre part des mouvements de danse ou un mouvement de danse pour le premier, un choral, une forme de mime pour le deuxième. Donc effectivement, on est à la fois un peu dans le narratif, mais le narratif n'est pas une création. Le narratif a déjà été intégré par Smetana, par Sibelius dans Vœches intimées, Smetana dans son deuxième quatuor. Donc, de ce côté-là, c'est pas là qu'est l'aspect le plus moderne. Disons que c'est peut-être l'aspect le plus disruptif. C'est peut-être justement aussi dans la manière de ne plus considérer les voix du quatuor comme des voix qui dialoguent. La première des trois pièces, les quatre voix sont chacune sur des rails. Et chacun joue son truc de manière un peu désynchronisée. Et la troisième, c'est un choral homophone. Donc effectivement, on est dans des choses que peut faire le quatuor, mais c'est pas ce sur quoi généralement les compositeurs ont fondé leur quatuor jusque-là. Donc Stravinsky fait un double déni du quatuor à cordes, d'une part en écrivant des petites pièces, alors que le quatuor a toujours été une grande forme. Cela dit, il faudrait quand même citer, pour être juste, un certain nombre de pièces de compositeurs russes de la fin du siècle qui ont écrit des petites pièces eux aussi, mais qui n'ont pas été connues, et les Anglais. Les compositeurs anglais ont écrit au début du siècle, grâce à Cobbett, qui ont composé un concours de musique de chambre, un certain nombre de petites pièces tout à fait intéressantes, notamment celles de Frank Bridge, qu'on ne connaît pas en France, mais qui sont tout à fait intéressantes et qui vont dans ce sens-là. C'est-à-dire que la petite pièce qui a été l'apanage du romantisme chez les pianistes, etc., qui a été complètement occulté par le quatuor à cordes parce que l'ombre de la forme beethovenienne se projetait sur ces compositeurs-là, n'apparaît véritablement qu'à la fin du XIXe siècle et prend son véritable sens avec Stravinsky. Mais il faut bien voir que cette expérience de Stravinsky, qui est un déni, va être une expérience unique et qui n'aura réellement aucune retombée avant les années 50. Il se passe une expérience parallèle à ce moment-là, qui est celle de Webern avec ses bagatelles, opus 9, mais là c'est aussi tout à fait différent, parce que ce qui se passe avec Webern, c'est effectivement l'irruption de la petite forme, des formes on ne peut plus brèves, mais c'est parfaitement dialogique, c'est-à-dire que l'écriture reste une écriture de quatuor dans la tradition beethovenienne. Et quant à l'évolution de Webern lui-même, elle est très intéressante à étudier. C'est une évolution en courbe en cloche, parce qu'il a commencé par composer des quatuors extrêmement classiques. C'est son mouvement de quatuor. Il a écrit un quatuor classique viennois, un mouvement de quatuor, et cinq mouvements pour quatuor qui reposent encore sur la forme sonate. Le premier des cinq mouvements, c'est une forme sonate. Il s'émancipe petit à petit de cet héritage et ça culmine avec les bagatelles opus 28. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'après la bagatelle opus 28, qui sont l'émancipation du son et l'émancipation de la forme, il revient à la forme avec l'opus 28, qui est un quatuor post-beethovenien, puisque le premier mouvement est le décalque du lento assai de l'opus 135 de Beethoven, c'est-à-dire un mélange de formes variations et de formes ABA. Et quant à l'utilisation du canon, c'est la grande tradition classique aussi. Donc il y a à la fois chez Webern un mouvement d'émancipation et un mouvement néoclassique de réappropriation de la tradition.
Quand on écoute aujourd'hui les bonnes interprétations de ces œuvres de l'école de Vienne, et notamment de Webern, on a une écoute tout à fait différente, c'est-à-dire qu'on a beaucoup trop insisté sur la question du langage et peut-être pas assez sur la question de l'écoute et la manière dont ça provoque une autre écoute. Ce qui change complètement, c'est quand même comment écoute-t-on un quatuor. Et je pourrais même en profiter pour poser à Miguel da Silva, à vous poser cette question, comment écoutez-vous et quel est le rôle de l'écoute entre les membres quand on joue cette musique?
Je crois qu'on ne peut pas, pendant 20 siècles, on a composé de la musique sur la gamme pythagoricienne. Enfin, et là, d'un seul coup, on se retrouve avec des notes égrenées dans l'espace qui sont, en fin de compte, prises pour leur sonorité propre. Je veux dire, c'est un petit peu, en toute proportion gardée, le pointillisme en peinture. Je veux dire, chaque goutte, chaque sonorité s'égrène dans l'espace d'une manière excessivement précise, écrite par le compositeur, et chaque son est pris pour ce qu'il représente en lui-même. Donc, le travail de l'interprète, c'est d'arriver à décrypter la couleur sonore de chacune de ces apparitions, c'est très éruptif comme façon de jouer, et à la différence, et ça je trouve que Bernard l'a parfaitement défini, il y a vraiment une notion de dialogue dans les Bagatelles opus 9 de Webern, qu'il n'y a pas dans les trois pièces pour Quatuor à cordes de Stravinsky ou dans son concertino. Je crois que Stravinsky, par son refus de dialogue, enfin par son refus de correspondre à cette tradition, invente de fait ce qu'est la polyrythmie. Alors que avec Webern, le fait d'écrire une musique avec un autre cadre, avec un autre mode de langage, lui revient au dialogue avec son opus 9.
Non, ce qui est véritablement nouveau chez Webern, c'est effectivement la maîtrise exceptionnelle de la petite forme. Et vous parliez d'écoute, c'est ça, c'est l'écoute de la note. Donc il y a une sensibilité à la note et l'écoute du silence. Mais là encore, je m'excuse d'être un peu obsessionnel, mais je voudrais dire que quand vous écoutez le premier mouvement de l'opus 135 de Beethoven, c'est déjà l'écoute de la note. C'est un quatuor qui est structuré au niveau de la note. Et quant à l'écoute du silence, depuis Mozart, on sait aussi ce que c'est que l'écoute du silence. Les Bagatelles, opus 119 de Beethoven, ayant fourni elle-même les pièces les plus brèves qu'on ait jamais pu entendre. Donc, là encore, ce n'est pas une rupture. Webern s'inscrit parfaitement dans la tradition viennoise. Et ce serait une erreur de penser que c'est une rupture, pas plus que la tonalité de Schoenberg. C'est la continuité, le quatuor devait mener là. Il n'avait pas encore trouvé l'homme, le compositeur, dont l'esthétique s'accommodait avec l'idée de petite forme. Et là, c'est la grande qualité, la grande innovation de Webern, c'est la petite forme.
Alors, il y a la question aussi de Berg, qui est sans doute le compositeur qui pose de la façon la plus curieuse la question du langage. Hein.
La suite lyrique, du point de vue de la forme, s'inscrit dans la grande tradition beethovenienne, encore une fois, c'est le modèle de l'opus 130, avec une alternance de mouvements qui accélèrent et de mouvements qui ralentissent, qui correspond aussi à des schémas, qui radicalisent des schémas qui avaient déjà existé chez Beethoven. Bon, maintenant, au niveau du langage, eh bien, c'est vrai que Berg tire les conclusions des expériences de Schoenberg, avec deux différences, une plus grande sensualité, une plus grande recherche d'expressivité, et puis un côté narratif qui est hérité des quatuors narratifs de la fin du XIXe siècle.
C'est très crypté, très caché.
C'est très crypté, puisqu'on sait que derrière le dernier mouvement de la suite lyrique se trouve un poème de Baudelaire et l'histoire des relations amoureuses. Enfin, tout le quatuor est chiffré avec des chiffres 10 et 5, qui sont les chiffres respectivement d'Alban de Berg et d'Anna Fuchs, sont véritablement, ce quatuor est véritablement l'histoire secrète amoureuse d'Alban de Berg et d'Anna Fuchs. Donc il y a véritablement derrière la modernité et la apparent cérébralisme de la chose, il y a la sensualité, le sentiment et une expression de grande profondeur.
Accord, c'est faire l'expérience des limites, c'est aussi faire l'expérience des nombres.
C'est une question tout à fait intéressante. Pourquoi est-ce que le quatuor à cordes a fonctionné de manière aussi quasi exclusive? C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il y a des quatuors par milliers et qu'il y a si peu de trios ou de quintettes à cordes? C'est parce que le chiffre 4 représente un équilibre idéal sur un certain nombre de points de vue. Bon, d'abord, c'est le quatuor vocal, c'est 4 voix, il y a cette tradition-là. Mais surtout, le quatuor, le chiffre 4, avant d'y venir, le chiffre 4 aussi propose une possibilité d'association que ne proposent pas les autres. Par exemple, si vous prenez le chiffre 5, avec 5 voix, vous pouvez les associer de différentes manières possibles, et plus nombreuses que 4, mais vous ne pouvez jamais réaliser une association paire. C'est-à-dire vous ne pouvez, l'impair n'engendre pas le pair. C'est-à-dire dans un quintet, vous ne pouvez pas avoir un dialogue équilibré entre deux groupes de voix. Vous aurez toujours 3 contre 2 ou 1 contre 4. Dans le quatuor, vous avez toutes les possibilités. 2 contre 2, 1 contre 3, 1 plus 1 plus 1 plus 1, 1 plus 1 plus 2, etc. Donc vous avez un nombre suffisant de possibilités plus variés dans leur fonctionnalité et suffisamment circonscrits pour qu'elles puissent être mémorisées. D'ailleurs, si vous écoutez un quintet, je réécoutais récemment aussi bien le quintet opus 29 de Beethoven, écrit peu après l'opus 18, que le quintet opus 111 de Brahms, et j'ai été frappé par la relative simplicité de ces œuvres par rapport à des quatuors. Le quintet opus 29 de Beethoven, c'est une œuvre toute simple par rapport à l'opus 18, au point de vue de l'expression dialogique. Donc il y a véritablement, avec le 4, quelque chose qui fonctionne idéalement. C'est ni trop, ni trop peu. Dans le trio à cordes, il manque une voix. C'est clair. Et d'ailleurs, quand vous jouez des trios, si vous avez la partition de trio, il y a beaucoup de double cordes parce qu'il faut combler le manque. Et quand il y a des quintettes, il y a souvent des doublures parce qu'il y a quelque chose en trop. Donc c'est comme ça. Et puis l'histoire le montre. Je constate qu'il y a plus de quatuors que de quintettes, mais infiniment plus. Les compositeurs ne sont pas fous. Pourquoi est-ce que Barthes, on dit, mais il faut une harmonie plus charnue, donc si on veut faire des neuvièmes, des accords de neuvièmes, de onzièmes, il faut beaucoup, beaucoup de voix. Est-ce que Bartok a écrit des quintettes? Il a écrit un quintet avec piano, mais il a écrit 6 quatuors. Il aurait pu écrire des quintettes ou des sextuors. S'il a écrit des quatuors, c'est parce que le 4 est le nombre idéal pour l'écriture dialogique qui caractérise ce genre jusque dans les années 50. Le chiffre 4 dans toutes les traditions, que ce soit les traditions de la nature ou les traditions religieuses, c'est le chiffre de l'achèvement et de l'unité. Une chaise peut tenir sur 3 pieds, mais est-ce que vous voyez beaucoup de chaises sur 3 pieds? Les chaises, ça a 4 pieds. Une voiture, ça a 4 roues. Le nord, l'est, l'ouest et l'est, c'est 4. Les noms de Dieu, Yahweh, c'est 4. Il y a les 4 évangiles. Enfin, je pourrais faire la litanie de tout ce qui fonctionne de cette manière-là. Et donc, je pense qu'il est tout à fait essentiel de comprendre que parmi les multiples raisons qui font que le quatuor est la quintessence de l'expression du dialogue instrumental, le fait que les instruments soient 4 est fondamental. Il ne faut pas rompre le 4. Et c'est pourquoi les compositeurs ne l'ont pas fait et sont restés toujours les yeux rivés sur ce modèle exemplaire dont la composition n'a jamais changé depuis les origines jusqu'aujourd'hui, parce qu'il y a quelque chose de mystérieux et de magique dans cette association.
Maintenant qu'on aborde plus précisément Bartok, est-ce que c'est vraiment le monument du XXe siècle au même titre que Beethoven pour le XIXe?
Pour moi, oui. Et si vous voulez, le livre que j'écris actuellement sur la dernière partie de l'histoire du quatuor, des écoles nationales à nos jours, je compte consacrer une phrase presque équivalente à Bartok que celle que je consacre à Beethoven dans le premier volume, parce que véritablement, pour moi, c'est un phénomène exceptionnel, parce que Bartok conjugue comme Beethoven des innovations formelles, un langage d'une cohérence absolue et une puissance visionnaire extrême, avec en même temps une énergie esthétique incomparable. La manière dont Bartok s'est conduire un crescendo est quelque chose que je ne connais que chez Beethoven. Un crescendo, ce n'est pas un crescendo dans l'instant, c'est un crescendo à grande échelle. Si vous prenez par exemple le deuxième quatuor de Bartok, le thème trouve son véritable aboutissement uniquement dans la réexposition après 5 minutes de musique. Et on est tendu vers ce moment-là, vers le moment où le violoncelle va faire chanter cette mélodie absolument déchirante. Et s'il l'avait donné tout de suite, ça aurait été perdu. Il y a un art du temps, de la maîtrise du temps, et il y a une énergie que je ne connais que 2 compositeurs à avoir à ce point, jusqu'aux années 50, Beethoven et Bartok.
Miguel da Silva.
Oui, je crois que Bernard l'a parfaitement décrit. Je crois que pour moi, le premier quatuor de Bartok, c'est un petit peu le 18e quatuor de Beethoven, en ce sens où son premier quatuor, il y a encore des influences de folklore, je veux dire. Et puis à partir de son deuxième quatuor, il va, en fin de compte, encore pousser les limites un petit peu plus loin que Beethoven en inventant d'autres possibilités. C'est un compositeur qui, pour l'instant, lorsque la littérature pour le quatuor à cordes est très grande, et c'est un compositeur que nous n'avons pas encore abordé, le quatuor. Donc j'aurais du mal à vous parler de... Je connais bien sûr ces quatuors, j'aurais du mal à vous parler d'une manière excessivement précise de l'idée de l'interprétation que je m'en fais, pour la bonne raison que je ne l'ai pas vécu encore. Mais en tout cas, il est clair qu'au XXe siècle, je ne vois pas de compositeur qui ait pu aller aussi loin et qui ait pu pousser, à la manière de Beethoven, les limites du quatuor à cordes avec autant de réussite.
De pousser les limites, c'est d'avoir été au plus loin des possibilités à la fois expressives et techniques de l'instrument.
Ah, tout à fait, oui. Il y a des et puis il y a des petites innovations, mais qui sont minimes par rapport à cette tension permanente chez Bartok. Il va par exemple inventer le Pitz Bartok, le Pitz qui fait que la corde doit frapper la touche pour donner une sonorité particulière, une sorte de...
Ça introduit du bruit, quoi.
Voilà, il va fouetter l'instrument littéralement. Bien après, des compositeurs plus contemporains vont demander à donner des coups de percussion sur la table de l'instrument ou sur le dos. Mais ça, ce sont des petites innovations, enfin, qui sont pas insignifiantes, mais qui sont tout de même... anecdotique. Non, je crois qu'il va réussir à, avec peut-être une phrase, là peut-être Bernard arrêtez-moi, parfois avec des phrases peut-être un peu plus concises, avec des modules de phrases, on va réussir à monter des crescendos et à donner une tension à la musique que seul Beethoven avait réussi à faire.
Ben oui, je crois que là vous avez mis le doigt sur ce qui me paraît fondamental et qui explique peut-être, c'est peut-être un des mystères, on n'expliquera jamais, mais un des mystères et une des raisons qui font que les quatuors de Beethoven et les quatuors de Bartok sont particulièrement réussis, c'est que justement ça travaille sur de petits motifs. C'est-à-dire que le matériau utilisé par Bartok et par Beethoven est particulièrement adapté au médium du quatuor. C'est pas un médium symphonique, c'est un médium de quatuor. C'est-à-dire que à partir de petites cellules, ça circule merveilleusement bien entre les voix. Et ce qu'on pourrait ajouter, c'est que, bon, au niveau du langage, donc, Bartok va tenir compte des possibilités nouvelles du langage de son époque, avec la polytonalité, la manière justement de mettre de manière plus radicale que chez Beethoven, parce que le langage est nouveau, les voix en opposition à l'intérieur des mêmes structures, et aussi que ce soit en opposition synchronique ou en opposition diachronique, et avec aussi une prolifération des types de dialogues de sous-ensemble chez Bartok. C'est aussi assez nouveau, c'est-à-dire qu'on trouve déjà un petit peu ça chez Beethoven dans la troisième variation de l'opus 131, où les deux instruments graves dialoguent avec les deux violons. Chez Bartok, on va avoir une série comme ça de dialogues confrontation ou de dialogues fusion entre les instruments qui donne effectivement un nouveau relief, où le quatuor c'est quatre, mais c'est des sous-ensembles d'instruments, et c'est même un seul, l'alto, qui commence le sixième quatuor avec cet extraordinaire mesto qui va être la petite pierre commune aux quatre mouvements du quatuor, C'est une voix unique, c'est une voix seule, c'est la solitude qui s'exprime à l'intérieur du quatuor. Et c'est tout à fait extraordinaire dans cette œuvre qui est une des plus géniales du siècle de voir comment ce petit mesto, cette petite pierre, va au fur et à mesure des mouvements prendre l'ensemble de l'espace musical, puisque cette introduction, de mouvement en mouvement, va grandir jusqu'à occuper tout l'espace.
Les chemins de la musique, le quatuor à cordes ou la conversation en chambre, par Christian Rosset, avec la participation de Bernard Fournier et Miguel Da Silva. Réalisation, Olivier Daligo, Olivier Dupré, François Viette. Musique de Schoenberg, Stravinsky, Webern, Berg et Bartok, par les quatuors Lassalle, Tokyo, Weg et Alban Berg.
Eh bien, à demain pour le dernier volet.